Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 10 mars, des roses pour Alisha. Au lendemain de la mort de l'adolescente de 14 ans à Argenteuil, frappée et jetée dans la Seine, l'émotion est toujours très vive dans son lycée qui était aussi celui de ses meurtriers présumés. Les lits de réanimation disponibles commencent à se faire rares, très rares en région parisienne. Le taux d'occupation monte à 90%. Comment tenir en évitant un reconfinement? Le professeur Fontanet sera l'invité d'RTL Midi. Une étude de l'Institut Pasteur explique qu'il n'y a pas de risque plus important de contamination dans les lieux culturels. Alors pourquoi ne pas les rouvrir? L'incompréhension d'un père qui a perdu son fils dans l'incendie d'un bar à Rouen il y a 4 ans et demi. Le drame avait coûté la vie à 14 personnes. Les deux gérants viennent de bénéficier d'une libération anticipée sous bracelet électronique. PSG Barcelone en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Les supporters espèrent qu'il n'y aura pas de bis repetita de la remontada. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Un grand classique aujourd'hui.
Exactement, nuages au nord, soleil au sud. Alors la perturbation concerne actuellement la Bretagne et les côtes de la Manche avec de la pluie et du vent. Elle glisse tout doucement dans les terres. Le ciel va se couvrir au fil des heures entre les pays de la Loire, l'Île-de-France et la Lorraine où les pluies arriveront mais plutôt en fin de journée. Puis en allant vers le sud, de plus en plus d'éclaircies, un ciel même bien dégagé dans le sud-est. Le tout sous des températures qui évoluent peu par rapport à hier, comprises entre 8 au Havre et 17 à Perpignan, 10 à Paris et Nancy et 14 à Bordeaux.
Question du jour sur RTL.fr. Surveillez-vous l'activité de vos enfants sur les réseaux sociaux? Vous êtes très partagés, on sent que c'est compliqué. 40% de oui, 34% de non. Témoigner au 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour, c'est pourtant une question essentielle, bien évidemment. On reviendra sur Alisha, 14 ans, battue et jetée dans la Seine. Bien sûr, et on reviendra également sur cette nouvelle rixe entre jeunes dans le 7e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, voilà. La polémique ne retombe pas à Sciences Po, Grenoble, vous pourrez réagir. Faut-il confiner l'Île-de-France? Ce sera un autre sujet. Et puis quelque chose de peut-être plus léger, quoique, les dessins animés de notre enfance sont-ils en danger, dépassés par ce nouveau monde, ces nouvelles mentalités, après la polémique autour des Aristochats? C'est maintenant Pépé le putois qui est considéré comme obsédé, dragueur, lourd, qui la embrasse et enlace Pénélope, une chatte noire, et qui contribue à normaliser la culture du viol, nous dit-on. Vous pourrez réagir sur ce sujet. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il va falloir tenir sans reconfinement en région Île-de-France, mais la situation commence à être extrêmement tendue dans les hôpitaux. Le nombre de nouveaux cas de Covid en Seine-Saint-Denis, par exemple, et dans le Val-de-Marne, dépasse les 400 pour 100 000 habitants. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 90%. Il reste une toute petite marge de manœuvre à Gatlandais.
Oui, car vous savez que lundi, l'Agence régionale de santé a ordonné que l'on passe à 40% de déprogrammation. Cela veut dire repousser un grand nombre d'opérations chirurgicales non urgentes pour ouvrir environ 400 lits de réanimation et libérer du personnel. Cet appel concerne les hôpitaux publics qui aujourd'hui déprogramment déjà environ 20% de leurs opérations, mais il vise aussi les cliniques et hôpitaux privés qui aujourd'hui ne prennent pas encore suffisamment part à l'effort. Ils déprogramment moins et sont moins sous tension que dans le public. Il y a donc là aussi une marge de manœuvre et des lits disponibles. C'est donc pour cela que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, temporisait encore hier sur notre antenne. Le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité, affirmait-il, notamment grâce à ces déprogrammations qui vont redonner un peu d'air aux hôpitaux. La question c'est jusqu'à quand pourront-ils tenir sans de nouvelles restrictions? Car dans le même temps, la courbe des nouvelles contaminations est en forte hausse dans tous les départements franciliens depuis déjà 3 semaines.
Agathe Landais, et on a toujours du mal à s'y retrouver dans la campagne de vaccination. En principe, les pharmacies pourront commencer à vacciner à partir de lundi prochain, le 15 mars. Certaines régions à risque pouvaient accélérer le mouvement plus tôt. Mais en Bretagne, qui est quand même l'une des régions les moins impactées par le Covid, 20 officines test ont déjà démarré depuis hier. Patrice Gabart, vous êtes dans l'une d'entre elles.
La pharmacie de la Bouexière, une commune de 4500 habitants au nord-est de Rennes, qui a reçu 3 flacons d'AstraZeneca en début de semaine, a déjà vacciné 15 personnes depuis hier. Marie-Claude Duval, pharmacienne.
Alors on avait déjà commencé une liste parce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont dit, dès que vous pouvez vacciner, est-ce que vous pouvez prendre notre nom? Et puis vous nous appelez dès que vous avez la possibilité de vacciner. Et dès qu'ils viennent au comptoir et qu'ils viennent pour leur prescription ou autre, on sait qu'ils sont éligibles et donc on leur propose. Nous avons un espace de confidentialité puisque nous faisons faisions déjà les vaccins de la grippe, donc nous étions déjà équipés.
Après l'injection, les personnes sont invitées à s'asseoir et se reposer quelques instants au milieu de la pharmacie. Marc, 70 ans, qui attendait ça depuis des mois, se réjouit d'avoir été vacciné dans sa pharmacie.
Depuis Noël, on était dans les starting blocks pour se faire vacciner. Le problème, c'est qu'on faisait partie du trou dans la raquette. Et bien, ils ont trouvé un cordeur, alors nous, on se réjouit. La proximité règle le problème, hein, bien sûr. Les gens nous connaissent nos pathologies. Ça permet une réactivité que ne permettrait pas un grand centre de vaccination ou autre, c'est clair.
Une phase pilote déjà couronnée de succès pour l'Agence régionale de santé de Bretagne.
Un reportage Patrice Gabart. Alors, où se contamine-t-on et comment? La dernière étude Comcor de l'Institut Pasteur, menée auprès de 77 000 personnes entre octobre et fin janvier, montre que le domicile reste une fois de plus un lieu privilégié, ainsi que la famille. Bonjour professeur Fontanet.
Bonjour.
Vous êtes un membre du conseil scientifique et professeur à l'Institut Pasteur. Ce qui ressort de votre étude, c'est qu'il n'y a pas de risque plus important de contamination dans les lieux publics, les commerces ou encore les lieux culturels. Expliquez-nous pourquoi il n'y a pas de sur-risque dans un cinéma, par exemple.
Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que quand on peut respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, gel hydroalcoolique et distance physique, effectivement, il n'y a pas de sur-risque d'infection, y compris dans des lieux fermés, en tout cas dans ce qu'on a pu étudier. Donc, une fois de plus, hein, les endroits où on s'infecte étaient des endroits ou en milieu privé, avec famille, amis, ou quelquefois professionnels, parce que les gestes barrières ne sont pas respectés, peut-être à l'occasion des repas, on a des transmissions du virus. En revanche, dans les transports en commun, dans les commerces, dans les lieux culturels quand ils étaient ouverts, dans tous les espaces où finalement on peut respecter les gestes barrières, on n'a pas vu de sur-risque d'infection, et ça c'est un message important.
Oui.
En creux, il faut aussi lire que à l'extérieur, on s'infecte beaucoup moins. Et je pense que ce qui est très important, c'est que les gens comprennent aussi que de sortir, de prendre l'air, de faire du sport individuel, tant qu'il n'y a pas de regroupement, grâce à l'espace, permet finalement de ne pas s'infecter. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut retenir de cette étude.
Mais quand on va au cinéma ou quand on va dans un musée, on a évidemment un masque, hein, ça c'est la règle de base, sinon on ne rentre pas. Et puis on fait un petit peu attention les uns aux autres. Alors qu'est-ce qui justifie encore aujourd'hui que les lieux culturels soient fermés ?
Alors au moment où on a fait notre étude, hein, ils étaient encore ouverts, c'était octobre. Depuis, oui. On n'a pas pu réévaluer ce risque. Donc on a quand même des informations qui ne portent que sur un mois. Mais une fois de plus, je pense que c'est ce qu'on sait de la transmission de virus, qui fait que quand vous respectez les gestes barrières, normalement, vous ne vous infectez pas. Donc,
c'est pas comme au restaurant, ce sont vraiment des endroits où on peut les respecter assez facilement, les gestes barrières. Vous comprenez l'impatience du monde culturel ?
Non, je comprends tout à fait l'impatience du monde culturel. Le seul caillou dans la chaussure, finalement, c'est que si on était resté avec le virus historique de 2020, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la première chose qu'on ferait, c'est d'essayer de réouvrir tous ces lieux où on sait que les gestes barrières peuvent être respectés et des protocoles sanitaires renforcés. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le variant anglais est plus transmissible, 50% plus transmissible, et que dès lors, des circonstances qui jusqu'à présent étaient considérées comme sûres pourraient à nouveau devenir des lieux de transmission. On n'a pas d'éléments pour le dire, mais c'est vrai que ça nous amène à une plus grande vigilance. Et vous voyez bien que la poussée épidémique qu'on rencontre dans certaines régions françaises aujourd'hui incite à la plus grande prudence. Mmh. Mais c'est vraiment extrêmement dommage, parce que sinon, cette connaissance qu'on a acquise sur la transmission du virus devrait nous permettre, pour certains lieux, de les réouvrir effectivement.
Mmh. Donc vous nous dites en gros que les variants vont tout changer, que votre étude est obsolète quelque part ?
Non, parce qu'on a appris une fois de plus des choses importantes, hein, sur les, par exemple, autre chose qui vraiment, je crois, il faut insister, le covoiturage est associé à un sur-risque d'infection, et ça on l'a vu sur toutes les périodes. Beaucoup plus que le transport en commun, où on n'a pas détecté de sur-risque d'infection. Et une fois de plus, de rappeler des choses que les gens savent, mais de les documenter, comme le rôle qu'ont pu jouer des réunions privées. Mais même si, par exemple, vous regardez bien l'étude, vous verrez qu'à Noël, eh bien, on voit que le sur-risque associé aux réunions privées est beaucoup moins important que ce qui avait eu lieu auparavant. Et ça veut dire que tous les messages de prévention qu'on a fait passer sur les réunions de Noël ont été efficaces.
Oui.
J'entends des gens qui nous disent « Regardez, il n'y a pas eu la flambée épidémique prédite à Noël ». Mais ça, c'est un succès. Ça veut dire que les messages de prévention qu'on a pu élaborer grâce aux résultats de toutes ces études épidémiologiques, on fait que les gens ont fait attention à Noël et on n'a pas eu la flambée épidémique redoutée. Donc ces informations sont utiles. Et le variant anglais, l'étude continue. Donc on est en train de réévaluer à la lumière maintenant de ce nouveau variant les circonstances de transmission.
On en est où dans le taux de contamination de ces variants d'ailleurs ? Quelles sont les données
chiffrées ? Actuellement, on est autour de 70%, je pense, pour le variant anglais à l'échelle nationale. C'est quelque chose qui était attendu, puisqu'on sait qu'il est 50 à 70% plus transmissible. Toutes les projections qui ont été faites dès début janvier disaient qu'au 1er mars, on serait à peu près à 50% de variant anglais. On a eu 56%, c'est pour vous dire qu'on est très proche. Et qui va devenir majoritaire fin avril, ce sera 90%. Donc c'est un virus plus transmissible et qui effectivement nous appelle à une plus grande prudence. Ça n'empêche pas, une fois de plus, ce que je vous disais, il y a quand même des espaces à l'extérieur, en absence de regroupement, où on peut vivre mieux. Faire attention au regroupement, par exemple, à la sortie des écoles. Quand je me sors dans la rue, que je vois les collégiens et les lycéens, on comprend très bien à la sortie des écoles qui sont entre eux en train de se parler et qui ne portent pas de masque. Ça, c'est des circonstances de transmission qu'il faudrait pouvoir éviter. Et puis, sinon, voilà, il y a des choses à faire, mais restons vigilants.
En fait, voilà, restons vigilants, soyons prudents à cause de ces variants, et vous nous disiez variant anglais, qui arrivera à 90% fin avril. Merci beaucoup, professeur Fontanet, d'avoir été l'invité de ce journal. Dans un instant, les restaurateurs pressés de rouvrir et de réinstaller leur terrasse chauffée qui devait pourtant être interdite.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les cafés et les restaurants fermés depuis le mois d'octobre rouvriront prudemment. Les négociations sont en cours avec le gouvernement. Et d'après nos informations RTL, les restaurateurs vont bénéficier d'un coup de pouce. Ils vont pouvoir conserver leurs terrasses chauffées au moins jusqu'en octobre de cette année et plus si affinité. Pour Alain Fontaine, président de l'association des maîtres restaurateurs, c'est une question de survie.
Très simplement, moi j'avais en place 96 couverts et avec les gestes barrières et la distanciation sociale obligatoire dans le protocole sanitaire, je descends à 60. Et donc, comment je rattrape mon écart ? Je le rattrape par la terrasse. Donc cette année, les terrasses, elles vont vraiment aider à sauver des entreprises. Et c'est très important que sur des fins de soirée, par exemple, les terrasses puissent être chauffées, ou alors sur un début de saison un peu froid ou sur une fin de saison un peu froide, que les terrasses puissent être chauffées pour préserver une fréquentation. Alors on a bien compris qu'effectivement nous avions des gens qui n'adhéraient pas à la mise en place de ces terrasses et au chauffage sur les terrasses, en particulier les écologistes. Pour autant, les restaurateurs travaillent sur le sujet avec des énergies vertes. Elles se mettent en place petit à petit. Qu'on soit clair, le fait d'avoir ce moratoire sur les chauffages va sauver des entreprises.
Alain Fontaine avec Armel Lévy. Les systèmes de bras zéro et autres radiateurs devaient en principe être interdits à partir du 1er janvier dernier, car trop polluants. Quant aux étudiants, pour les aider à faire face à la précarité, les droits d'inscription à l'université seront gelés à la rentrée prochaine pour la deuxième année consécutive. Les loyers des résidences universitaires n'augmenteront pas, annonce faite ce matin par la ministre déléguée à l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Et puis certains saluent le confinement. La marque de jouets Lego a dégagé un bénéfice record l'an dernier, en hausse de 19%. Les ventes des célèbres petites briques plastiques ont progressé partout dans le monde. Alisha, 14 ans, a perdu la vie pour une sordide histoire de collégien sur fond de triangle amoureux attisé par les réseaux sociaux. Les enquêteurs tentent d'éclaircir les circonstances exactes de la mort de l'adolescente battue puis jetée dans la Seine à Argenteuil par deux camarades de sa classe. Ces derniers sont toujours interrogés. Vincent Serrano, vous êtes devant le lycée professionnel Cognac-Gède où venaient ces trois élèves. L'émotion est toujours aussi forte.
Et les bouquets de roses accrochés autour de la grande porte d'entrée sont encore plus nombreux qu'hier. Les élèves sont arrivés ce matin, tête baissée, certains en pleurs. Marina, elle ne traîne pas devant, un peu craintive à l'idée de venir en cours.
Ce matin, c'était compliqué, j'avais un peu la boule au ventre de venir. On est arrivé, c'était silencieux, je suis choquée, j'ai pas trop les mots, quoi. Je m'en sens plus protégée, en fait, dans ce lycée. En fait, ça pouvait arriver à n'importe qui, donc maintenant, t'as peur, tu te méfies de tout le monde.
Ce qu'ont très bien ressenti ce matin les professeurs qui ont pris quelques minutes pour discuter avec leurs élèves. Ça m'a fait du bien, soupire Karima.
Il nous a dit qu'eux, ils n'étaient pas préparés à ça et que si il y a moindre problème, il fallait qu'on en parle, qu'on aille voir la proviseure ou le proviseur adjoint et qu'on en parle sans hésiter. En fait, c'est compliqué parce qu'on se dit qu'elle a quand même 14 ans et qu'on ne peut pas mourir à 14 ans, en fait. Et ça doit être difficile pour sa mère d'avoir perdu sa fille. Moi, ma mère, quand elle a vu ça, elle a pleuré parce que ça l'a touchée directement. Et c'est pas normal. Aller jusqu'au meurtre pour une histoire d'harcèlement, c'est encore pire. On doit pas ôter la vie d'une fille de 14 ans.
Et c'est pourquoi une cellule d'écoute a été mise en place ici avec 4 psychologues à disposition des élèves, bien sûr, mais aussi des parents. Alors qu'une maman vient de déposer à l'instant un bouquet avec un mot, je vais vous le lire. Mmh. Pour tous ces jeunes qui partent trop tôt, soyez certains de toujours rester vivants avant nous.
Vincent Serrano en direct d'Argenteuil pour RTL et le procureur de la République de Pontoise tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 17h. Souvenez-vous, le 5 août 2016, l'incendie d'un bar à Rouen avait coûté la vie à 14 personnes. Le feu s'était propagé par les bougies d'un gâteau d'anniversaire. Les victimes, prises au piège en sous-sol, avaient péri asphyxiées et brûlées. Les deux gérants avaient été condamnés à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Aujourd'hui, ils viennent de bénéficier d'une libération anticipée sous bracelet électronique. Rémi Hubert, le papa du DJ décédé dans l'incendie, n'admet pas cette décision.
J'ai de la colère. J'ai de la colère. Et je pense qu'il y a de quoi.
Hein ? Eux, ils vont se reconstruire, ces gens-là. Est-ce que nous, on va se reconstruire ? Est-ce que mon fils va se reconstruire ? Déjà que 5 ans de prison, enfin 5 ans, la peine maximale n'était pas cher payée. Et là, 12 mois après, bon, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'on a tué 14 personnes et on sort au bout de 12 mois. Eh ben, c'est léger. C'est trop léger. C'est la loi française. C'est une troisième grosse épreuve. Hein. La première, c'était le drame. La deuxième, c'était le procès. Et là, la troisième, c'est-à-dire qu'on les libère avant qu'ils aient fait leur peine. Voilà. Comment on a laissé faire ça? Comment on a pu faire ça? C'est intolérable, des choses comme ça.
Frédéric Veil, c'est vous qui avez rencontré Rémi Hubert. On entend sa douleur, mais que dit la justice?
Eh bien, tout simplement que les deux gérants du bar qui étaient incarcérés à la maison d'arrêt du Havre depuis fin 2019 ont fait une demande de libération conditionnelle comme la loi les y autorise puisqu'ils étaient à la moitié de leur peine. Le parquet s'y est tout de suite opposé, mais c'est finalement la cour d'appel de Rouen qui a confirmé la décision du juge de l'application des peines qui lui a estimé que les deux accusés au comportement irréprochable durant leur détention remplissaient toutes les conditions pour être libérés sous bracelet électronique parce qu'ils ont notamment trouvé du travail et qu'ils ont commencé à indemniser les parties civiles. Les deux gérants du Cuba Libre sont donc sortis de prison le 12 janvier dernier. Eux qui avaient été condamnés, comme vous l'avez dit, en octobre 2019 à 5 ans de détention, dont 3 en ferme.
Frédéric Veil. Dans un instant, on roule à la betterave et aux céréales. Bref, au super éthanol.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Et si on roulait au super éthanol, c'est l'essence la moins chère du marché, 69 centimes le litre, et en plus, c'est du carburant vert. Le gouvernement vient d'autoriser l'homologation des boîtiers de conversion pour toutes les voitures de plus de 15 chevaux. Reste un point noir, seule une pompe sur 4 délivre du E85. Mais les stations-service sont prêtes à faire plus. Francis Pousse représente les distributeurs de carburant au Conseil national des professions de l'automobile.
On n'est pas mort et mordi attaché à la vente de pétrole, puisqu'on sait bien que c'est le sens de l'histoire. Tout ce qui va nous permettre de nous diversifier nous va bien. Les ventes augmentent, effectivement. C'est un des produits qui nous permet d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Ça peut au moins compenser la perte de la vente des produits typiquement fossiles, diesel ou essence, puisque en particulier après des années compliquées comme celle de 2020, c'est l'un des produits les moins coûteux à mettre en place dans nos stations-service, puisque c'est grosso modo le même matériel, cuve et pompe que pour distribuer de l'essence ou du gasoil.
Francis Pousse avec Éric Vanier. Emmanuel Macron rend hommage ce matin à Vannick Berberian, l'ancien président des maires ruraux de France, l'un des inspirateurs du grand débat après la crise des Gilets jaunes, est mort lundi d'un cancer. Il avait 65 ans. Un compte à solder, titre l'équipe ce matin. Pour ce 8e de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG reçoit Barcelone, fort de sa victoire 4-1 à l'aller. Oubliez la remontée humiliante d'il y a 4 ans. Le PSG semble cette fois en ordre de marche et les supporters, même privés de stade, veulent y croire, Nicolas Georgerot.
Oui, à Paris comme ailleurs, où se trouvent les supporters parisiens, on voit cette rencontre comme un point final à une douloureuse histoire. Clément vit à Londres, il ne veut plus entendre parler de remontada et il convient qu'une nette victoire permettrait d'exorciser quelques tourments.
Ça reste quand même une façon de tourner la page parce que déjà Barcelone n'est plus le Barcelone qu'il était il y a quelques années. Ça doit être une formalité, il faut que ce soit fait et facilement pour que les choses soient dans l'ordre.
Alors ça, ce sont des feux d'artifice, oui. Pas pour fêter déjà la qualification du Paris Saint-Germain, je vous vois surprise, mais ceux que les supporters parisiens ont allumés devant l'hôtel du Barça au milieu de la nuit. Les Catalans avaient fait pareil au match aller. Samy, de son côté, estime que le Paris Saint-Germain doit voir loin, plus loin que la Catalogne.
Je veux voir mon club aller loin en Ligue des Champions, c'est même l'objectif du club. Je pense que le Barça, c'est qu'une étape et que le PSG, que ça soit au prochain tour, le Real, Manchester City, le Bayern, Porto ou Dortmund, bah, ils ont les capacités et ils doivent même les battre. Ils en sont capables. Et je dirais même que c'est un devoir pour les joueurs d'aller loin en Ligue des Champions.
Pour assumer ce statut de finaliste de la dernière édition et prouver que ce n'était pas une performance sans lendemain.
C'est ce qu'on espère. RTL Foot à partir de 20h45 avec Eric Silvestro pour suivre donc ce PSG Barcelone. Enfin, offrons-nous quelques douceurs.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons dans les Hauts-de-France où un livreur parisien qui s'autoproclame reporter gastronomique fait le tour en ce moment des spécialités sucrées de la région. Vous l'avez accompagné, Franck Hanson.
Sur son scooter électrique, il se gare devant la pâtisserie du Vieux-Lille. Encore une bonne adresse pour ce reporter gastronomique.
Bonjour madame.
Jean-Baptiste Martinon vient déguster ces fameux gâteaux meringués qui se sont exportés jusqu'à New York.
Pour un petit plaisir, je suis en train de faire un tour des Hauts-de-France de toutes les meilleures spécialités sucrées. Évidemment, je ne peux pas passer à côté des meilleures.
Bon, c'est de la meringue avec de la crème fouettée à différents parfums. Donc c'est plus chocolat, après c'est chocolat blanc spéculoos, c'est le praliné. Et c'est du bon produit du Nord.
Je crois qu'il ne reste plus qu'à goûter maintenant. C'est super.
Habitué des défis culinaires, ce jeune Parisien baptisé Baba O'Run sur les réseaux sociaux profite de chaque bouchée sucrée. Dans son film qui conclura son périple, il entend surtout mettre en valeur le savoir-faire d'artisans locaux.
L'idée c'est d'allier à chaque fois l'aventure et la découverte gastronomique. Il y a eu beaucoup de découvertes, là. Il y a eu le Calais à Calais. J'avais déjà goûté le gâteau battu, mais là j'ai goûté celui de la boulangerie Fréville qui est réputé pour être l'un des meilleurs. Le macaron d'Amiens avec son histoire liée à Catherine de Médicis. La tarte Libouli aussi, vous connaissez ? Ça c'était à Boulogne-sur-Mer. Quand on voit les bons artisans, ça change tout.
En plus des découvertes gastronomique, Jean-Baptiste profite pour faire des rencontres et pour éviter de prendre du poids entre deux gâteaux, Baba O'Run pratique la course à pied.
Et merci entre autres pour le merveilleux qui porte si bien son nom. Pascal Pro, vous allez dialoguer au 32-10 avec les auditeurs dans 5 minutes maintenant. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Vous avez demandé à Nicolas Georgerot de rester en studio.
Non, ça sent Nicolas, le foot. Il a fait le papier d'il y a 2 ans sur la remontée.
Ah, allez, la petite perfidie du
non,
jour.
Non, pas du tout. Non, mais il a raison. Il n'y a aucune chance cette fois-ci. Aucun risque. Enfin, rendez-vous
ça,
demain.
Ça paraît
mais... Non, ce qui est hallucinant dans votre journal, c'est d'entendre qu'il n'y a aucun risque de contamination dans les lieux culturels ou quasiment aucun et qu'ils soient fermés. C'est ça qui est quand même hallucinant.
Oui, vous avez bien entendu Arnaud Fontanet qui dit que les variants ont changé la donne. Voilà.
Oui, enfin, et puis alors l'année prochaine, il y aura aussi un autre variant. Si tous les années, il y a un variant, on ne rouvre jamais. Quoi.
Je ne polémique pas. Je
ben, moi, j'ai envie de polémiquer. Voilà, c'est parce que franchement, sur le théâtre et le cinéma, ça serait bien qu'on rouvre quand même. Me semble-t-il. D'ailleurs, ce serait bien de rouvrir beaucoup de choses.
Bon, à tout à l'heure.
Et de rouvrir les radios, surtout. À tout à l'heure, oui, comme vous dites. Il va falloir nous laisser maintenant, monsieur.
Peggy Broche, on parle un peu de météo. Ça commence à décoiffer, dites-moi.
Et oui, Christelle, parce qu'il y a une perturbation pluvieuse et venteuse, c'est ça, sur la Bretagne actuellement, les Pays de la Loire, les côtes de la Manche, avec des rafales à 70 km/h. Mais le vent va se renforcer dans la nuit, avec des rafales attendues jusqu'à 100, voire 110 km/h possible. Donc cette perturbation, elle progresse lentement. Les nuages seront de plus en plus nombreux entre le centre, la région parisienne et la Lorraine. Les pluies vont arriver également, alors plutôt en fin de journée, accompagnées de vent. Et plus au sud, là entre l'Aquitaine, la Franche-Comté, le ciel est juste voilé, mais plutôt lumineux et c'est même bien dégagé dans le sud-est. En Corse, c'est encore du beau temps. Peut-être une petite averse dans le sud-ouest de la Corse, mais rien de bien méchant. Les températures, elles sont quasiment stationnaires hein, par rapport à la veille. 8 à Lille, 10 à Paris, 11 à Brest, 12 à Mulhouse et Limoges, 13 degrés à Lyon et Montauban, 15 à Nice, 16 à Marseille et même un bon 17 degrés à Perpignan.
Bon, et demain, ce sera donc bien agité.
Exactement. Du coup, voilà, on a cette perturbation qui va rentrer dans le pays avec un temps pluvieux et venteux sur les trois quarts nord du pays. Le gros des pluies demain matin sera surtout entre les Charentes, la Bourgogne, le Grand Est et cette bande pluvieuse va glisser vers le Limousin et l'Auvergne dans l'après-midi. Plus au nord, on aura ce qu'on appelle un ciel de traîne toute la journée avec des averses et surtout beaucoup de vent, jusqu'à 110 km/h encore possible sur les côtes, 90 à l'intérieur des terres. Finalement, les seules régions à l'écart de cette perturbation seront dans le sud, entre les Pyrénées, la région PACA et la Corse, où là le ciel sera lumineux et les températures. Alors demain, on n'aura plus de gelée, ça c'est déjà pas mal.
C'est déjà ça.
Et les maximales, elles seront en hausse, comprises entre 10 et 15 degrés au nord et jusqu'à 20 au sud.
Merci Peggy. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL midi.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Les réseaux sociaux sont désignés comme les principaux ou les principales responsables, les principaux responsables de ce qui se passe aujourd'hui, notamment auprès des jeunes. Et on est avec Pierre, précisément, qui est professeur d'histoire et qui est au contact des jeunes. Ces réseaux sociaux, c'est un drame, Pierre ?
C'est de plus en plus un drame, oui, effectivement.
Et vous allez nous expliquer pourquoi, le rappel des titres avec Christelle.
Des roses pour Alisha, au lendemain de la mort de l'adolescente de 14 ans à Argenteuil, frappée, jetée dans la Seine. L'émotion est toujours très vive, notamment dans son lycée, qui était aussi celui de ses meurtriers présumés. Le procureur de la République de Pontoise tiendra une conférence de presse à 17h. Près de 4000 malades en réanimation, les hôpitaux saturés dans plusieurs régions. Nouveau conseil de défense ce matin à l'Élysée. Pourtant, un nouveau confinement de la région parisienne a été écarté en début de semaine. Dans les EHPAD, le gouvernement va adresser cette semaine un nouveau protocole de recommandation sanitaire pour alléger les contraintes qui pèsent sur les pensionnaires. Les visites, les sorties, les animations vont pouvoir peu à peu reprendre, sachant que 87% des résidents ont reçu au moins une dose de vaccin. À l'université, les droits d'inscription resteront gelés à la rentrée prochaine pour aider les étudiants en situation de précarité. Annonce de Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur.
Les auditeurs ont la parole.